elle arrive à Yards and Shaw. Boisé sur le slide, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Par le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Shiz 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui se sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Shiz 94.3.
À toi plus souvent que tu penses, même si la vie prend le dessus. Je pense à toi plus souvent que tu penses, et j'aimerais que ce soit sûr. Gardes-tu tes habitudes? fais-tu encore le cabochon? Es-tu encore dans la lune? As-tu slaqué la boisson? Aimes-tu encore ta blonde? As-tu appris à prendre soin de toi? Te sens-tu tout seul au monde? Aurais-tu le goût de m'appeler?
Madame, Monsieur, voici votre allongée sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans l'allongée de ce lundi 3 mai. On est tranquillement en studio, je suis Victor Lehest et je suis en compagnie de Myriam Elsi. Bonjour Myriam, comment ça va?
Bonjour Victor, je vais bien, merci, et toi?
Oui, ça va très bien, on est reparti là pour une bonne semaine, la dernière semaine pour l'allongée, mais on a toute la semaine encore pour profiter, pour que vous puissiez écouter l'allongée encore toute cette semaine. Myriam, on va parler aujourd'hui, pour faire un rapide sommaire de tous nos sujets du jour, on va d'abord parler d'immigration et plutôt de non-immigration au Québec. François Legault qui estime qu'il ne veut pas recourir à l'immigration pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, on va enchaîner sur une autre pénurie, mais cette fois-ci la pénurie de bois, ou en tout cas le Québec qui veut d'abord satisfaire la demande interne avant les exportations. Et puis on va parler de caméras espionnes. C'est un sujet d'enquête qui est paru dans la presse ce matin, vraiment intéressant. On va en parler dans la première partie d'émission. On va enchaîner avec de la politique fédérale, ou plutôt en parlant de l'Assemblée législative en Alberta qui suspend ses travaux. Et puis on parlera de déconfinement en France avec un clip assez intéressant à décoder, à présenter aujourd'hui. Ça va nous amener sur la deuxième partie de l'émission, où là on va aller jusqu'au Tchad, où la junte militaire nomme un gouvernement de transition. Et puis on parlera de Deep Time, qui est une expérience de 40 jours sous terre. C'est sur ça qu'on va se pencher autour de 8h40. Et puis à la fin de l'émission, dans notre dernier quart d'heure, on aura un invité qui sera là à partir de 8h45. Myriam, on va commencer avec notre premier sujet qui est autour de l'immigration, et puis François Legault qui En fait, c'est pour tout détail depuis le début, il y a eu des enregistrements qui étaient faits entre François Legault et puis les différents chefs d'entreprise. Et puis c'est une conversation qui aurait dû rester privée, mais Radio-Canada a pu obtenir des enregistrements. Et Monsieur Legault, dans ces enregistrements-là, disait qu'il ne voulait pas recourir à l'immigration massive pour combler la pénurie de main-d'œuvre. C'est pourtant quelque chose. Recourir à l'immigration, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé pour justement combler le manque de main d'œuvre. Et là, Monsieur Legault qui estime que il veut pas payer les postes vacants au salaire moyen parce qu'il a en tout cas certainement un biais. C'est ce que va nous confirmer l'article, de penser que l'immigration est forcément un salaire moyen, alors que justement, il estime que selon lui, une personne qui gagne moins de 56 000 dollars empire le problème. Et qu'il voudrait que les personnes immigrantes qui arrivent gagnent plus de 56 000 dollars par année. Et il estime en fait que le salaire, c'est en tout cas basé sur le salaire moyen, il voudrait augmenter le salaire moyen autour de 15 dollars de l'heure. Mais si les postes comblés sont des postes à bas salaire, il pense que ça ne va pas régler le problème. Et en tout cas, c'est donc un mythe déploré par le président du conseil du patronat, ce président qui s'appelle Carl Blackburn, qui estime qu'il y a un mythe autour du travailleur immigrant qui est un travailleur peu cher, en tout cas qui est un travailleur qui va travailler pour un bas salaire, alors que on le sait, pour revenir au Québec, il y a souvent besoin de prouver qu'on a les diplômes nécessaires ou alors qu'on vient pour étudier. Justement, nous, toi comme moi, Myriam, on sait qu'on a besoin de prouver qu'on est inscrit à l'université, qu'on vient pour un diplôme, etc. Donc il y a ce biais-là qui a été confirmé donc par le président du conseil du patronat et François Legault qui voudrait en fait sélectionner les migrants. Il voudrait surtout accueillir des personnes qui travaillent dans les technologies de l'information. Il estime que c'est surtout dans ce domaine-là que le Québec a besoin de personnes. Et donc le problème de pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème qui était déjà là avant la pandémie, qui revient. Et puis pour combler ça, on parle de 30 000 personnes qui manqueraient au Québec en ce moment. C'est donc François Legault qui a demandé à ses ministres du Travail et au ministre de l'Immigration de combler ces postes-là le plus vite possible et que ces besoins-là passeraient. Il serait comblé, mais ça ne passerait pas forcément justement par l'immigration. Il estime qu'en proposant des formations aux Québécois, ça pourrait suffire. En tout cas, c'est la stratégie certaine. Vers cette stratégie-là que va aller François Legault. Il estime aussi que l'immigration qui va accepter sera surtout de l'immigration économique, c'est-à-dire des gens qui viennent pour investir ici, simplement. C'est une autre manière de dire on veut accueillir des immigrants riches et pas d'autres types d'immigrants. Et c'est comme ça que conclut l'article en disant que ce serait 60% de l'immigration totale qui serait de l'immigration économique. Et c'est là-dessus que Québec peut choisir le reste. Les réfugiés politiques, par exemple, c'est au niveau fédéral que ça se gère. Donc Québec n'a pas trop la main dessus. Mais au niveau de l'immigration économique, Québec peut gérer sa propre politique. Et donc c'est certainement là-dessus, enfin c'est vers cette voie que se dirige le Québec en ce moment.
Ah, je trouve que c'est un peu déplorable le mythe, comme tu le disais tout à l'heure, de l'immigrant. On s'imagine rapidement que l'immigrant, c'est quelqu'un qui n'a pas de compétences réelles et puis finalement qui ne serait pas à mesure d'occuper des postes de responsabilité. Et donc ça ne sert à rien, entre guillemets, pour la société québécoise de chercher ces personnes-là. Mais je trouve que c'est, entre guillemets, un peu insultant pour les immigrants. C'est des personnes qui ont fait leur scolarité dans leur pays d'origine. Et donc lorsque quelqu'un décide d'immigrer, il y a des raisons claires qui l'amènent à immigrer. On ne peut pas trier les gens comme si on triait des machines. On dit, toi, tu peux être là et puis toi, tu n'es pas là. Ça n'a pas de sens, en tout cas. Et je lisais justement un article au niveau un peu plus fédéral qui expliquait que avec avec la COVID et la pandémie, il y a plusieurs immigrants d'origine diverse, en tout cas, sont rentrés dans leur pays parce que le fait d'être seul dans un pays, dans une situation pareille, ce n'était pas évident. Et donc, ils encourageaient les provinces à ouvrir les voies pour l'immigration, pour les personnes qui étaient désireuses de travailler au Canada. Mais l'article avait bien précisé que cette ouverture était demandée à toutes les provinces, hormis le Québec. Donc, ça prouve vraiment qu'il y a, à mon humble avis, une certaine peur de l'inconnu au niveau du Québec. Je ne dirais pas jusqu'à la xénophobie, mais je dirais qu'il y a un refus d'intégrer des personnes immigrantes. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on ne peut pas accepter quelqu'un qui vient faire des études et puis on refuse quelqu'un qui veut travailler. Ça n'a pas de sens.
Tu fais bien de rappeler, il y a quelques semaines, deux, trois semaines, il me semble, l'ouverture de 90 000 postes de résidence permanente, en tout cas de titres de résidence permanente dans le Canada. Il y a juste le Québec gère sa politique d'immigration et donc qui n'était pas dans ce programme-là. Et donc là, François Legault qui ne suit pas du tout la même dynamique. C'est vrai. Et puis, rappeler il y a déjà une sélection qui est faite pour, une fois qu'on est au Québec, en tant qu'immigrant, étudiant étranger ou personne qui désire aspirer à la résidence permanente, il y a déjà une sélection qui est faite. Donc, voir ces personnes-là comme des personnes d'office, en bas de l'échelle, c'est vrai que ça...
Ça n'a vraiment pas de sens.
C'est rempli de préjugés. C'est très faux, en tout cas. C'est le cas de très peu de personnes. Il y a beaucoup, comme tu l'as dit, des formations et des projets qui ont été établis avant de venir au Québec. Les personnes ne viennent pas là sans plan.
C'est ça.
On va enchaîner avec... là, c'est pas trop de transition, on parle de bois. C'est plus du tout de personnes, on parle de bois. Et on parle de bois, le matériel, le bois. Et Québec solidaire qui veut satisfaire la demande interne avant les exportations. Et c'est toi qui as lu la nouvelle ce matin, Myriam.
Oui, c'est sur Radio-Canada que je l'ai lu. En fait, on explique que le bois canadien, est beaucoup plus québécois en tout cas, est prisé par les États-Unis. Donc, la majorité de l'exploitation des forêts communautaires sont en destination des États-Unis. Et on déploie justement une hausse des prix qui découle de cela sur le marché local. Donc c'est une députée du Québec solidaire qui s'insurge contre cela. Elle représente Rouyn Noranda et Témiscamingue, Émilie Lézard. En fait, Lézard, elle essaye d'expliquer que c'est pas normal que la forêt communautaire, elle appartient, c'est le patrimoine de tous les Québécois et que leur exploitation bénéficie plus aux étrangers qu'aux Québécois, et les Québécois sont obligés de payer la facture salée, qu'on peut dire ainsi, alors que c'est le bois qui appartient à tous. Donc, elle estime que les pouvoirs publics doivent gérer le patrimoine public dans l'intérêt de la population avant d'exporter. Pour donc régler ce problème, elle propose d'établir des quotas. Donc des quotas d'exploitation qui se baseraient sur la demande, une estimation de la demande réelle en fonction des statistiques qui ont déjà été établies et puis de la tendance estimée. Et puis après que l'on ait satisfait le marché local, le reste maintenant pourrait être dévoué à l'exportation. Elle estime qu'en faisant ainsi, on protégera le marché québécois, le pouvoir d'achat des Québécois et on restera toujours... veut dire compétitif au niveau international. Elle explique également que la mesure qu'elle propose va permettre d'aider aussi à freiner les coûts dans l'immobilier parce que justement le bois c'est l'une des matières premières en construction. Donc si le bois est cher, les nouveaux immeubles et logements le sont aussi. Donc en estimant qu'en faisant ainsi, elle permettra de cesser, du moins de freiner la courbe de croissance des prix de l'immobilier. Donc c'est ça.
Ok, donc tout ce sujet autour du bois, c'est aussi en rapport avec l'immobilier. On parle beaucoup d'immobilier, mais aussi le bois, c'est vrai, c'est à prendre en compte également. C'est vrai que c'est intéressant de se pencher là-dessus. On va enchaîner avec, c'était un peu le volet politique provincial. On enchaîne maintenant avec un sujet beaucoup plus de société, où cette fois-ci c'est une enquête parue dans la presse ce matin, une enquête autour des caméras espionnes. Donc en fait, quand on parle de caméras espionnes, ils parlent là dans la presse de petites caméras qui sont cachées et vraiment miniatures, qui sont pas forcément visibles et qui sont cachées à des endroits... on n'a pas du tout envie d'être observé, dans des endroits où, dans des salles de bain, dans des toilettes, dans des chambres. Et en fait, c'est des caméras miniatures qui ont été transformées par les personnes pour des raisons de voyeurisme, en fait, et c'est un fléau d'après la Cour du Québec. Et donc, c'est une enquête qui a été menée par Marie-Claude Malbeuf, donc dans la presse. Donc, pour un peu faire le tour de cet article-là, c'est... Il y a beaucoup de... Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de crimes qui avaient été commis autour de ça. Ils sont allés revoir les jugements qui avaient été donnés autour de justement personnes qui avaient porté plainte pour voyeurisme. Et c'est le nombre qui a clairement augmenté sur les dernières années, où il y a un tableau qui monte cette augmentation, et ça va jusque, donc en 2019, ça allait jusqu'à 191 plaintes qui ont été déposées pour voyeurisme, donc des plaintes un jour sur deux à peu près, donc c'est quand même pas un phénomène totalement anodin, et c'est en plus c'est commis par que des hommes, toutes les personnes qui ont été interpellés
jusque-là ?
Pas interpellés, mais qui ont reçu la plainte, et c'était à chaque fois des hommes qui étaient accusés, et des hommes de tout type d'horizon, et aussi donc des personnes, des médecins, des avocats, des comptables, des entraîneurs sportifs, des électriciens, concierges, étudiants, donc vraiment, il n'y a pas de profil type à ce niveau-là. Et donc la presse qui est allée interroger le psychiatre qui s'appelle Benoît Da Silva, qui traite les délinquants sexuels à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, et il croit que les chiffres actuels, donc 191 personnes dénoncées, ça sous-estime l'étendue du problème. Ça paraît déjà beaucoup, et il pense que ça sous-estime l'étendue du problème, notamment parce que tout le monde ne remarque pas les caméras, donc c'est déjà une première source de sous-estimation. Pour un peu comprendre pourquoi les voyeurs font ça, il explique que certains voyeurs partagent leurs images avec d'autres ou sur le web pour dire qu'ils font partie du groupe, pour en fait s'intégrer dans le groupe, de dire moi aussi je suis capable de faire ça, et puis en fait ces vidéos sont partagées justement sur des sites pornographiques, et c'est là tout l'étendue du problème. Déjà c'est pas grave d'être filmé, et en plus une fois que son image personnelle est partagée sur des sites pornographiques, on comprend que ça peut être dévastateur pour la personne qui se voit affichée sur tous ces sites-là. Et puis donc la presse qui est aussi allée s'intéresser comment est-ce que les personnes font pour trouver ces caméras espionnes. La presse donc qui a décompté au moins 10 sites web, dont Amazon, sur lesquels on pouvait trouver des caméras espionnes, donc ouvertement destinées aux douches et aux toilettes. C'était marqué dans la description, vous pouvez les mettre là-dedans, ça marche très bien. Je suis allé vérifier juste avant, on tape caméra espionne, on les trouve encore. Et donc la presse qui a aussi interrogé une ancienne victime de voyeurisme qui s'appelle Sydney Hitz, et qui elle, c'est il y a 4 ans, il y a un homme qui l'a filmée alors qu'elle était en train qu'elle était dans l'ascenseur, et il y avait une caméra qui était placée en dessous d'elle, et donc elle a porté plainte, elle a saisi le comité permanent de l'accès à l'information, et puis depuis 4 ans elle se bat pour plus de protection des personnes qui sont filmées à leur insu, et puis elle donne aussi quelques conseils, en tout cas le maximum qu'elle peut, et puis quelques recommandations pour se protéger. Elle aimerait que des personnes soient assignées à l'inspection des lieux publics, comme les toilettes, comme les vestiaires, pour que détecter s'il n'y a pas des caméras cachées. Et puis elle invite aussi tout le monde à inspecter les objets stratégiquement, donc si n'importe qui va dans un Airbnb, dans un hôtel ou dans un endroit public, d'inspecter minutieusement s'il n'y a pas des caméras qui sont cachées. Elle dit que on peut vérifier s'il y a des trous inhabituels ou s'il y a une lentille qui dépasse quelque part, mais c'est pas toujours facile à trouver non plus, donc elle invite à la prudence, évidemment, faut pas devenir parano non plus, mais faut se dire que ça existe et faut y faire attention. C'est en tout cas avec l'expérience qu'elle en a, et puis avec les 191 cas de 2019, c'est vrai que c'est pas anodin, c'est quelque chose qui existe, donc autant y faire attention.
Mais c'est fou finalement de voir des personnes qui s'amusent à mettre des caméras cachées dans des endroits un peu insidieux pour pour déranger. Moi, je trouve que c'est déranger les personnes. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui peut prendre, en fait, à l'esprit de quelqu'un d'aller insérer des caméras cachées dans des endroits privés, si je peux le dire ainsi. Mm-hmm. Je trouve que c'est pas...
C'est tout le mystère un peu autour du voyeurisme, où il y a des personnes qui s'excite autour de ça, qui trouve du plaisir à voir ces images.
Ces images, oui, mais finalement, est-ce que si elle-même se faisait prendre au piège, serait heureuse de se faire prendre au piège? Je ne sais pas.
Ça. Est-ce qu'il se pose la question? Faudrait peut-être leur soumettre. Bon, faudrait leur soumettre ta question, Myriam. Mais je pense qu'on n'aura pas. Enfin, la réponse, j'ai l'impression qu'on l'a. Personne n'est heureux d'être affiché comme ça, nu, sans, en dehors de sa volonté, sur n'importe quel. Oui. N'importe quel site, c'est évidemment un problème. Bah Myriam, là-dessus, c'est sur ce qu'on va partir en pause musicale. On va partir avec Le Potager de l'AF, et puis on revient juste après. On continue, restez bien à l'écoute sur La Longée.
On s'est tout déjà fait poigner dans un rêve en train de voler, c'est là qu'il faudrait juste y croire. J'suis dans le ciel comme une prière qu'on lance en l'air à la volée sans y penser plus que ça. Ok, beaucoup me parlent en espèces, j'entends juste en respect, on m'appelle mon espace, yeah. Trouble dans le pastis, pas besoin qu'on se force plus, sur une autre planète j'pose pied. Tête à l'envers dans le manège, prends les kilos puis j'y berne. C'est aussi ce qu'il nous fallait, puis j'ai le feu au kérosène, yeah. Toutes les gosses sont fêlées, yeah. L'infini c'est le fêlée. C'est comme si l'envie de conquérir avait décové les feelings, yeah. Pression sur le plexus, on a rempli le cendrier. Pression sur le plexus, pense trop. La famille en visite, difficile de s'ennuyer. On amène les fils, on dans le dos. Laisse-moi, j'suis dans un mood. Ok, laisse-moi faire focus sur mes movements, movements, yeah. Laisse-moi, j'ai le droit de faire le move, yeah. Ok, laisse-moi courir vers le futur, frérot. J'ai dit laisse-moi, j'bouge.
J'fais le grand saut dans la navette, dans l'alambic, d'autres facettes, j'voudrais jamais revenir. Oh yeah. Mon aventurier des canettes, j'dois m'assurer que la cassette arrête de jouer un loop one day. J'ai fait pousser un arbre dans le pays, Marie-Marie-Landandais. J'ai mis trop d'efforts dans le potager pour voir le fruit incendier. C'est déjà dit, y'a pas de plan B pour un canard à la patte cassée. J'ai pas de solution qui fit dans un coffre à gants, mais j'ai tous mes doigts croisés. Let me take a breath for a minute, let me take a trip jusqu'à Vénus. On est ici solide comme un filigrane, on est comme un vaccin ou des gélules. J'ai décrit l'amour dans un filet. We about to flex comme Crisis. Reste des trucs à faire pour lever les voiles. Reste des trucs à faire, gotta figure.
Il reste des trucs à faire, gotta figure. Pour l'instant, j'm'entoure des gens purs. Me font avoir la vie un peu moins dure. Non, j'ai ça à craindre pour le futur. Jusqu'à la figure.
De faire du surplace, toute l'Espagne y a paix sur le gaz. L'important si tu coules, c'est de pouvoir retrouver la surface. Bousiller les sous-glaces, à force d'effacer mes peines. J'ai fumé toute ma perche en pensant m'évader de cette terre. Mais c'est pareil, feeling vite chaque fois que la machine s'arrête. Rouler comme des barges à croire qu'on sait plus comment le tout se place. On s'est cruisé comme des inconnus, ils font maintenant je lis en toi. Les liens sont forts quand l'atmosphère est réelle. Viens, on dort dans le miel. Laisse-moi, j'suis dans un mood. Ok, laisse-moi faire focus sur mes mots. Laisse-moi, j'ai le droit de faire le moule, yeah. Ok, laisse-moi courir vers le futur, frérot. J'ai dit laisse-moi, je bouge.
Et re-bienvenue dans La Longée, vous êtes toujours sur les ondes de Chis 94.3 avec moi-même Victor Louest et en compagnie de Myriam Elsie. Myriam, on va enchaîner avec toi, où on va parler de l'Assemblée législative de l'Alberta qui suspend ses travaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, C'est sur Radio-Canada que nous l'avons appris hier. Le premier ministre de l'Alberta a demandé justement qu'il y ait une suspension des activités plénières de l'Assemblée nationale en raison du nombre, disons, énorme de COVID, de cas de COVID dans sa province. Et il explique justement que c'est le pic le plus élevé que la province a connu depuis le début de la pandémie en 2020. Donc, il estime qu'avec cela, on ne pourrait pas permettre en fait que les députés qui viennent de leurs différentes circonscriptions se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale. Ça pourrait créer un foyer de propagation du virus dans une situation où l'État essaye de tout faire pour juguler justement la crise. Et il estime qu'il s'est entretenu avec les leaders de l'opposition pour prendre de commun accord une décision qui, d'après lui, est salvatrice pour le devenir de la province. Cependant, la principale chef de l'opposition, donc Rachel Notley, estime que le message de Jason Kenney, donc le premier ministre de l'Alberta, est, d'après elle, une déclaration de fuite. Un premier ministre qui serait, d'après elle, en train de fuir ses responsabilités et d'abandonner sa population face au danger que représente la COVID et toutes ses implications au niveau économique, social et autres. D'après elle, c'est pas normal qu'il y ait des Albertains qui continuent à travailler malgré le risque, qui doivent se présenter sur leur lieu de pause malgré le risque, et que leurs élus, eux, finalement, aillent se cacher dans leur maison, pour reprendre ces expressions. Donc, pour elles, c'est, ça n'a pas de bon sens. Et voilà, c'est un peu, la situation est un peu tendue entre le Premier ministre et puis la leader de l'opposition. Pour sa part, le Premier ministre estime que l'Assemblée nationale avait justement délibéré en février de cette année sur des possibilités de ce soir, en tout cas les assemblées plénières, justement en tenant compte que ces genres de situations pouvaient arriver, et donc il ne comprend pas pourquoi ce serait assez compliqué. Et puis il estime que la chambre parlementaire ne va pas arrêter de fonctionner parce qu'il continuera à avoir des rencontres sur internet, à travers les plateformes telles que Zoom et autres. Donc il ne comprend pas pourquoi, mais d'après elle, il y a des dossiers qu'on ne peut pas toucher par internet parce qu'ils sont confidentiels, et des dossiers qui sont justement liés à la COVID et qu'il fallait des sessions plénières pour gérer. Donc voilà un peu le climat en Alberta aujourd'hui.
Donc, un climat un peu bloqué. Donc, est-ce que l'article indique si ça risque de se débloquer dans les prochains jours ou...
Non, pour l'instant, c'est juste que la date minimum, en tout cas de reprise des travaux en plénière, c'est le 17 mai. Okay. Et cela pourrait être encore prolongé. Donc on ne sait pas encore comment ça va réagir.
Ok. Pour faire une transition avec la France, là, la situation est beaucoup plus débloquée. C'est un déconfinement depuis aujourd'hui, en fait, il y a un déconfinement qui a été entamé. La France qui, en partant d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, ça devrait être le déconfinement total, avec, presque total, presque comme avant, avec l'accès à des lieux à plus de 1000 personnes en intérieur comme en extérieur à condition d'être vacciné. Ce sera d'ici le 30 juin. Mais en attendant, il y a un clip de déconfinement qui a été publié sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron. Et c'est un clip qui a fait réagir notamment du côté luxembourgeois, avec le Courrier International qui nous rapporte un article du quotidien L'Essentiel qui se moque légèrement du clip de Emmanuel Macron. Et en fait, dans ce clip-là, on voit, ça montre un peu comme l'art de vivre à la française, le comme avant, avec vraiment une musique inspirante, des images bien montées où on a l'impression que c'est bon, on voit la lumière au bout du tunnel et puis on sort de la crise. Alors que clairement, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité. C'est pas le vaccin, il va pas tout sauver, mais c'est présenté vraiment comme ça dans le clip qui a été publié sur Twitter, et le clip qui a été vu plus de 2 millions de fois sur le réseau social. Et puis il a notamment donc été critiqué pour son style publicitaire avec sur Twitter, c'est un peu l'endroit de la critique, et c'est le bon endroit pour ça, mais là vraiment il y avait de quoi dire à ce niveau-là. Et puis elle était critiquée sur Twitter, et puis ça laisse aussi beaucoup de gens sceptiques autour d'un éventuel retour à la vie presque normale. C'est évidemment sous condition que tout se passe bien, que toute la campagne de vaccination se passe bien. Et puis ça, c'est en fait vraiment en écho avec la nouvelle, en tout cas la nouvelle vision de Emmanuel Macron vis-à-vis de la Covid. Il est parti, donc il y a un an, il annonçait « nous sommes en guerre ». Ça a beaucoup fait, c'est resté dans les mémoires en France, son « nous sommes en guerre contre la Covid-19 ». Et là, il admet qu'il va essayer de vivre avec la Covid en pensant, en fait, en espérant que la vaccination pourra faire en sorte que le virus soit moins virulent et amène moins de gens en fait jusqu'au stade de réanimation, au stade de l'hôpital. Et donc c'est comme ça que Emmanuel Macron envisage sa nouvelle politique sanitaire vis-à-vis du virus, donc la France qui devra vivre avec un virus, et c'est comme ça que c'est envisagé. Et puis le clip de campagne, un peu promotionnel autour, qui a été publié hier, qui est bien dans cette lignée, qui illustre bien cette vision.
Puis c'est pas quand même la première fois que le président français a recours aux réseaux sociaux. On se rappelle de la campagne qu'il avait lancée avec les youtubeurs. Tu en avais parlé ici, oui. Justement, oui, pour sensibiliser les personnes à la Covid. Donc il aime bien, je trouve, à recourir aux réseaux sociaux pour gérer des situations ainsi.
Oui, il y est pas tout le temps, mais quand il y est, c'est vrai que ça fait souvent parler. Il a une bonne, en tout cas une équipe de com qui arrive à faire parler d'elle. C'est vrai que là-dessus, il est assez doué. Oui, en tout cas, il arrive bien à gérer les réseaux sociaux. C'est un des points, c'est vrai, que important aussi dans la gestion de cette pandémie. Myriam, on va partir en pause publicitaire et puis on revient juste après la pub. On parle du Tchad et puis de 40 jours sous terre. Alors restez bien à l'écoute sur les ondes de Chiz 94.3. Okay.
Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. It's not my problem. Téléchargez le balado ou syntonisez Chiz 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal. Oui!
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey, salut, ça va?
Ben oui. Puis, qu'est-ce que ça fait en fin de semaine?
Bon, pas grand-chose. Je me suis reposé.
Ah, c'est plate.
Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine.
Ah, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine. Le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi sur Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Vous écoutez L'Allongée sur les ondes de Chiz 94.3.
Re-bienvenue dans L'Allongée, toujours avec moi-même Victor Louest et en compagnie de Myriam Elsi. Myriam, on est reparti avec... On parle du Tchad et de la junte militaire qui nomme un gouvernement de transition.
Oui, c'est ce que nous annonce l'actualité internationale. En tout cas, depuis le 19 avril dernier, le président tchadien Idriss Déby est décédé, d'après les sources officielles, serait décédé au combat. En fait, c'était un militaire, donc autoproclamé maréchal récemment, donc qui aurait été assassiné par les rebelles. Et au lendemain de, enfin, disons, dans la foulée de l'annonciation de son décès, son fils Mahamat Idriss Déby a pris la reine du pouvoir et a dissous toutes les instances décisionnelles telles que l'Assemblée nationale. Et il a promis d'organiser comme un gouvernement de transition qui va s'étendre sur un an et demi pour finir par l'organisation des élections dites démocratiques. Donc là, ça crée des tensions au niveau international parce que ça bafoue toutes les règles de la constitution tchadienne qui prévoit, comme dans la plupart, en tout cas, des pays d'Afrique francophone, qu'après... lorsqu'il y a vacance du pouvoir, pour quelque raison que ce soit par le décès, comme dans ce cas-ci, ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne les rênes du pouvoir pour organiser les élections sous un délai de 60 jours. Donc là, l'armée qui... Enfin, son fils était un colonel qui prend les rênes du pouvoir, qui dissout les instances décisionnelles et qui décide lui-même d'établir son gouvernement de transition. On rappelle quand même que le week-end dernier, il a nommé 40 ministres, il a créé de nouveaux postes ministériels et puis il a changé un peu l'organisation qui était préétablie par son père au préalable. Ça crée beaucoup de tensions, on a des émeutes dans la rue. Donc, il y a des Tchadiens qui sont sortis pour s'insurger contre la prise du pouvoir par les militaires, qui refusent que ce soit une sorte de féodalité qui s'installe finalement au Tchad, et comme dans la plupart des pays francophones. Et ici, l'article est intitulé, l'article qui est publié sur Radio-Canada est intitulé « La junte nomme un gouvernement de transition et puis le Tchad gêne la communauté internationale ». Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de communauté internationale dans ce dossier? On critique beaucoup l'omniprésence, pour reprendre les termes qui sont utilisés, de la France dans l'approbation de ce nouveau gouvernement. On a déploré le fait que le président français Emmanuel Macron se soit rendu sur les lieux directement après le décès d'Idriss Déby pour quelque part aviser en fait le nouveau gouvernement en place en apportant certaines formes de soutien. Et la France qui, après la nomination justement de ses ministres, se dit disons frustrée par les actions de Mahamat Idriss Déby. Donc on accuse la France de jouer à l'autruche, d'avoir toujours une certaine mainmise sur les anciennes colonies. Donc ça a ramené tout le dossier des pays d'Afrique francophone qui est largement critiqué. On demande à la France de laisser les pays africains entre guillemets s'autodéterminer. Donc voilà, la situation est assez compliquée. Il y a des militants qui ont été tués à balles réelles par les soldats tchadiens, et donc beaucoup d'Africains, de Tchadiens au niveau international, notamment en France encore, se sont levés pour réclamer la démission du fils de Mahamat Idriss Déby et réclamer à la France de libérer les pays d'Afrique francophone pour leur donner le droit de s'auto-organiser.
Il y a toujours beaucoup d'interventions de la France en Afrique qui est vraiment pas toujours la bienvenue et qui parfois cause plus de problèmes qu'apporte de solutions, alors qu'ils annoncent apporter des solutions, mais en réalité c'est souvent une source de beaucoup de
conflits.
Beaucoup de conflits.
Ouais.
Myriam, merci beaucoup pour d'avoir parlé de ce sujet ce matin. On enchaîne, vraiment aucune transition là-dessus. Là, on quitte le Tchad et puis on va s'enterrer sous terre, 40 jours sous terre, et précisément, où en fait c'est plutôt un groupe qui s'appelle Deep Time qui s'est enterré 40 jours sous terre pour une expérience. Le but de leur expérience était d'apprendre les liens entre le cerveau et le temps, ainsi que la capacité de synchronisation fonctionnelle au sein d'un groupe. Donc, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est parti sous terre, qui est allé tenter l'expérience de voir comment est-ce que le cerveau fonctionnait quand il n'avait plus la mesure du temps, puisqu'ils sont partis sans aucune montre, sans aucun repère temporel. Et il y a notamment une franco-québécoise qui est partie, qui s'appelle Marina Lançon, qui a donné une entrevue à RAD. La vidéo a été publiée hier. Et dans la vidéo, elle explique un peu comment ça s'est passé. Donc, ils avaient des activités prévues. Ils devaient, par exemple, aller chercher de l'eau, aller nettoyer l'endroit qui leur servait de toilette, etc. Donc, ils n'étaient pas là 40 jours à s'ennuyer. Ils avaient vraiment des activités à faire. Et ce qui était intéressant de suivre, et le but de leur expérience, c'était justement de voir comment est-ce que leur cycle s'adaptait. Et pour elle, 40 jours s'est passé vraiment très très vite. Elle a dit qu'elle était à son 29e jour de cycle de sommeil. En fait, ils comptaient une fois qu'ils étaient sous terre, ils comptaient les cycles en nombre. Dès qu'ils se levaient et puis ils se recouchaient, c'était un cycle. Et en 40 jours, elle a dormi 29 fois. Donc pour dire à quel point elle s'est réadaptée sans aucune notion de soleil, de montre, ni quoi que ce soit, son rythme naturel était plus lent. En tout cas, elle dormait moins que si elle était à la surface. Et puis, l'expérimentation continue une fois qu'ils sont retournés, une fois qu'ils retournent à la surface. Ils donnent des nouvelles aux scientifiques, ils voient comment est-ce que ça se passe. Alors c'est une expérimentation qui continue. Il y a également donc Christian Clos qui était la personne à la tête, explorateur franco-suisse à la tête du projet, et qui a donné un entretien au Figaro à ce propos. Et puis il explique que ça ne l'a pas du tout stressé d'être en dessous, que même pas donner de nouvelles à ses proches, ça ne l'a pas plus inquiété que ça. C'est assez marrant de voir ça, mais ce qu'il a le plus angoissé, c'est une fois qu'il est retourné à la surface et d'avoir toutes les nouvelles d'un coup, de voir tout ce qui s'est passé en 40 jours. En plus, au moment où il est ressorti en France, il venait d'y avoir un attentat contre un policier. Alors c'est un peu sur cette nouvelle qu'il a été accueilli à la surface. Donc c'est toute une expérimentation qui a été menée, qui est finie depuis à peu près une semaine. Depuis dimanche dernier, ils sont ressortis, plutôt samedi dernier, ils sont ressortis et ils ont fini leur expérimentation. Et donc ça reste à suivre, donc pour avoir les résultats scientifiques, plus qu'au-delà de l'expérience individuelle, de voir comment leur corps s'est adapté.
Ça adapte plutôt peut-être des impacts au niveau psychologique aussi. Je trouve qu'il pourrait y avoir peut-être positif aussi, savoir est-ce que ça augmente la capacité de résilience, de détachement par rapport aux événements ou autres, ou peut-être négatif aussi. On ne sait pas, donc ce serait intéressant de savoir en tout cas.
Ouais, c'est vrai que ce serait très intéressant. On va sur ça certainement. Il y aura certainement des rapports qui seront remis. Ils n'ont pas fait 40 jours pour rien sous terre. J'espère pour eux en tout cas qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. On suivra ça évidemment. Mireille, on va partir en pause musicale avec Zao, ma lune de Zao. Et puis on revient juste après avec notre invité qui est là dans le studio. On revient juste après ça. Restez bien à l'écoute sur les ondes de Chiz 94.3.
Je t'ai cherché, je visais la lune. Tu m'as connu le cœur dans la brume. Quand l'amour a déserté mon île, j'ai écrit entre le marteau et l'enclume. Je ne suis pas né dans la fortune, ma seule richesse, ma famille, mes coutumes. J'ai fait l'or dans mes disques et ma plume, et tu seras éternel dans mes projets posthumes. Les regards ne seront pas unanimes, pourtant fermer les yeux est facile. J'ai fait semblant, j'ai fait face au vent, mais face au miroir, je ne vois qu'un enfant. Faut-il mieux être anonyme? Je ne sais plus qui m'aime ou qui m'abîme. Que restera-t-il avec le temps? Avec le temps, yeah. Je n'invente pas ces mots pour toi. Tu es ma lune, je ne vois que toi. Je n'invente pas ces mots pour toi. Tu es ma lune et tu m'allumes. Mon passé n'est plus qu'un champ de ruines. Je marche entre les douilles et les mines. Loin de mon Algérie en exil, j'ai rêvé que son peuple triomphait à mine. La fin n'est jamais comme dans les films. Dans tous les scripts, tu serais mon héroïne. J'ai cueilli la rose malgré l'épine. Au milieu du salon où mon fils me dessine. Non, sans toi, ma vie serait sans rime. J'aurais pas tout l'espoir qui m'anime. J'aurais moins d'âme et de sentiments. J'aurais jamais rencontré le père de mon enfant. Trop de blessures dans l'abîme. Si on me censure, je deviens mime. Beaucoup d'amour dans le sang. Coupez le son. Je t'aime, Naïm. Je n'invente pas ces mots pour toi. Tu es ma lune, je ne vois que toi. Je n'invente pas ces mots pour toi. Tu es ma lune et tu m'allumes. Je n'invente pas ces mots pour toi. Tu es ma lune, je ne vois que toi. Chacun son destin, chacun sa fortune. Chacun de nous a au moins quelqu'un qui éclaire son bitume. Soigne mes mots, donne-moi ta main. Prête-moi ta plume, comme un toucher. Quand rien n'est certain, je demande à la lune, à ma lune.
Je n'invente pas ces mots pour toi. Tu es ma lune, je ne vois que toi. Je n'invente pas ces mots pour toi. Tu es ma lune, ma lune et tu ma lune. Hey.
Vous écoutez L'Allongée sur les ondes de Chiz 94.3.
Et re-bienvenue sur les ondes de L'Allongée, toujours en compagnie de moi-même Victor Louest et avec Myriam Elsi. Et on a la chance d'avoir avec nous en studio notre invité Michel-Ange Imbois qui travaille à Arter, qui est donc un organisme de promotion et d'établissement de l'agriculture. Bonjour, bonjour Michel-Ange.
Bonjour.
Alors, Myriam, je vais te laisser introduire rapidement notre invité et puis commencer à poser quelques questions.
Oui, en fait, nous allons parler aujourd'hui de l'agriculture et puis de la relève agricole, du secteur agricole québécois. On se rappelle quand même que la semaine dernière, en tout cas, le ministre des Finances, Christa, vraiment, bref, j'ai pas envie d'écorcher le nom, désolé. En fait, a publié un contenu budgétaire qui est marqué par la pandémie actuelle. Donc, malheureusement, les critiques qui ont été sévèrement adressées à ce contenu budgétaire-là, c'est que la place de la relève agricole n'était pas forcément très... très présente. Les agriculteurs se plaignent, en tout cas depuis un certain nombre d'années, d'une difficulté à trouver de la relève agricole au niveau familial, donc retrouver des personnes qui souhaiteraient reprendre leur exploitation et même de trouver aussi des personnes externes à leur famille pour reprendre l'exploitation qu'ils ont dirigée depuis pendant toutes des années. Donc ici, ils se plaignent des problèmes de transaction, donc des prix, de la tarification et autres. Donc voilà un peu de quoi nous allons parler, c'est juste un peu pour situer un peu le sujet. Donc ici, nous avons la chance de recevoir M. Michel-Ange Imbois qui travaille justement pour l'Arter. Donc comme nous l'avons dit, qui est un organisme de promotion de l'agriculture, nous voulons comprendre un peu c'est quoi le rôle finalement que joue l'Arter devant ce problème-là pour contribuer justement à la relève agricole.
Bonjour et merci de me donner la parole aujourd'hui. Ben, en fait, le service de l'Arter est un service d'accompagnement qui a été justement créé pour permettre pour permettre l'établissement en fait d'une relève agricole, pour faciliter l'établissement de la relève agricole. Nous œuvrons surtout dans tout ce qui est transfert et entente on va dire établissement de relève agricole non apparentée. On aide finalement les producteurs agricoles à se trouver une relève lorsque, au sein de leur famille, ils n'ont personne pour reprendre en fait la ferme familiale. Donc nous, notre rôle, c'est de les aider à trouver justement des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer justement dans le même domaine qu'eux. Si c'est un producteur agricole en producteur laitier, bon, on va essayer de l'accompagner, de l'aider à trouver un aspirant agriculteur dans le domaine laitier. Et vice-versa aussi, on aide justement la relève agricole à s'établir en agriculture. Donc, lorsqu'ils viennent nous voir et qu'ils nous expliquent leur projet, et puis ils nous disent dans quoi est-ce qu'ils veulent s'établir. Et donc, avec eux, on fait des recherches, on essaie de leur trouver soit des terres agricoles, non cultivées ou à louer ou à vendre, ou alors on opte pour un transfert justement non apparenté, c'est-à-dire qu'ils reprennent la ferme de quelqu'un, d'un producteur agricole. Donc en fait, c'est une manière pour nous en fait de pouvoir maintenir l'agriculture au Québec et de pouvoir la préserver.
On estime en fait, d'après les statistiques nationales, que la zone agricole occupée, en tout cas le territoire occupé par l'activité agricole serait environ de 2% seulement déjà. Donc il y a une réduction. Donc comment est-ce que les activités finalement de l'ATES sont organisées pour adresser cette problématique? Est-ce qu'il y a des formations des futurs entrepreneurs? Est-ce qu'il y a du financement, l'aide au financement? Est-ce qu'il y a un suivi et tout ça?
Ben, nous, notre rôle vraiment, c'est vraiment de s'assurer d'une entente de jumelage entre aspirants et producteurs. Après, ce à quoi on aide notamment, c'est-à-dire qu'on aide à la préparation de nos candidats. C'est-à-dire qu'avant de partir une entreprise, il faut bien se préparer, il faut avoir un plan d'affaires. Donc, justement, on les accompagne justement dans la réalisation de leur plan d'affaires. On les accompagne aussi, on les réfère aussi régulièrement à beaucoup d'intervenants du milieu agricole, que ce soit en termes de financement. Que ce soit en termes justement de préparation et puis de subvention et tout, on les réfère au MAPAC. On les réfère aussi au réseau Agri-Conseil ou au conseil en relève et établissement. Tout ça de manière à ce qu'on ait des candidats qui soient bien préparés. Parallèlement à ça aussi, au niveau des producteurs agricoles, on essaie de voir avec eux quels sont leurs projets. Parce que quand ils souhaitent justement une relève, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre leur relève, les producteurs agricoles n'ont pas forcément d'épargne, ils investissent tout dans leur entreprise agricole et c'est la vente de l'entreprise agricole qui est leur fonds de pension finalement. Donc on les accompagne, on essaie de voir avec eux c'est quoi leur mode de vie, option de vie qu'ils souhaitent pour les 10-15 prochaines années. Et avec ça, on essaie de voir un peu comment est-ce que, quel est le candidat idéal qui pourrait reprendre la ferme maintenir en fait les valeurs justement de cette ferme et tout. Donc nous, notre rôle est vraiment bien, comment dire...
Bien... La définition du profil.
Exactement, c'est ça. Et puis il est bien précis en fait, où on n'interfère pas trop en dehors de l'aspect rencontre, jumelage et tout. On n'interfère pas trop au niveau des prix des terres et autres. C'est moins notre rôle. Nous, on est vraiment dans l'aide à aider la relève agricole à se trouver vraiment une terre ou une ferme.
Ok, d'accord. Donc on comprend finalement que l'agriculture ici est vue comme vraiment un métier. Donc il suffit juste pas d'avoir une idée comme ça, et bien je veux faire de l'agriculture pour se retrouver.
Non, effectivement, c'est ça. Et puis les personnes qui viennent nous voir justement, pour filtrer un peu, justement, on leur demande de nous faire un plan d'affaires, bien qu'on les accompagne dedans. Et puis, ça permet aussi de s'assurer qu'on a des personnes qui veulent vraiment se lancer en agriculture, que ce n'est pas juste un projet...
comme ça, farfelu. Comme,
exactement, qui émane juste circonstanciellement et qu'il soit bien mûri, effectivement.
Ok, d'accord. Donc, finalement, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez avoir décidé, en tout cas, des entraves? En supposant que vous avez fait déjà le tri, donc vous avez un candidat sérieux qui en veut, qui est présent, mais est-ce que vous avez remarqué pour l'instant des entraves à leur épanouissement dans cette nouvelle activité?
Ben, les principales difficultés qu'ils ont, la première chose, c'est le prix élevé des terres. Okay. Donc au Québec, et puis ça a beaucoup monté, je pense entre 4 et 7%, le prix des terres a beaucoup augmenté. Donc ça, c'est le principal dilemme en fait pour ces aspirants agriculteurs qui veulent s'établir mais qui sont confrontés à la hausse de prix des terres. Le deuxième où on travaille beaucoup, c'est aussi au niveau du financement. Parce que même s'ils veulent s'installer, généralement, c'est des jeunes aspirants, donc ils n'ont pas beaucoup de mise de fonds et tout. Donc, on travaille énormément au niveau du financement pour qu'ils puissent avoir un prêt pour s'établir. Et on privilégie aussi souvent, dépendamment de la production, l'option de la location. La location avec option d'achat et tout pour leur faciliter aussi l'accès pour qu'ils puissent se concentrer davantage sur leur projet plutôt que sur le financier ou sur le foncier. Donc ça, ce sont les principales difficultés qu'on retrouve au niveau de la relève agricole. Et puis c'est un peu similaire au niveau des producteurs agricoles. C'est parce que justement... il faut qu'ils vendent à un certain prix pour pouvoir assurer leur fonds de retraite. Et souvent, ils sont obligés de consentir à certains efforts à vendre peut-être moins cher que la valeur marchande de leur entreprise pour permettre justement à une relève de s'établir.
D'accord. Et finalement, si on veut parler de la relève féminine, cette fois-ci, de la place des femmes dans le secteur agricole au Québec, est-ce que vous pensez que les femmes commencent de plus en plus, en tout cas enceintes, à s'intéresser à ce milieu qui est en général qualifié de milieu masculin de par l'effort physique que ça demande et autres?
Oui, effectivement. Et notamment quand on regarde même dans les écoles de formation d'agriculture, on constate que depuis plus d'une dizaine d'années, le nombre de femmes qui étudient en agriculture est grandissant. Et chaque année, depuis quelques années, il y a au moins 30% des personnes qui s'établissent en agriculture sont des femmes. Et là, dernièrement, ici à l'Université Laval, notamment, en regardant, on a vu qu'il y avait plus de femmes qui étudiaient en agriculture que d'hommes. Donc, le pourcentage de femmes en agriculture est en grandissant en fait en, de manière croissante et mais c'est ça, mais sinon effectivement elles ont autant de autant les capacités physiques et mentales de pouvoir s'établir, même si on assimile l'agriculture à un métier d'homme, mais c'est dans les faits c'est pas tant le cas, les femmes aussi se débrouillent à merveille aussi bien même que les hommes.
Ok, d'accord. Donc, c'est ce point que j'ai terminé avec l'entrevue. Je ne sais pas si tu as des questions.
Non, en tout cas, c'est vers cette dynamique. Il y a une dynamique plus de femmes qui vont accéder à l'agriculture.
Oui.
Elles sont aujourd'hui étudiantes, mais elles vont certainement...
C'est ça, mais même actuellement, dans le milieu même agricole et tout, on observe quand même qu'il y a un bon nombre de femmes, comme je disais tantôt, depuis 5-6 dernières années, il y a au moins 30% de femmes qui s'établissent en agriculture. Et puis là, on parle juste d'agriculteurs, mais sinon, en termes d'intervenants agricoles, comme des conseillers et autres, on observe aussi qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont présentes aussi. Donc, ça va de manière croissante. Et puis, c'est sûr qu'en termes de ratio, il y a toujours plus d'hommes actuellement qui sont en agriculture que de femmes, mais ça s'équilibre petit à petit.
Et peut-être pour finir, une dernière question. On parle d'étudiants donc, qui vont accéder à certainement certains qui vont commencer des activités agricoles. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner quant au type de choses, de plantes, de produits qu'ils pourraient exploiter, qui seraient plus rentables à l'avenir, ou est-ce que vous donnez simplement les clés selon ce qu'ils veulent faire ?
C'est ça, on y va plus à leur donner les clés de selon ce qu'ils veulent faire. Généralement, quand ils sont dans le doute et tout, on les accompagne peut-être pour faire comme une sorte d'étude de marché. Mais c'est surtout que c'est en lien aussi avec les compétences qu'ils ont. S'ils sont dirigés dans la production animale, c'est sûr qu'on va plus regarder en production animale quel secteur où il faut s'installer. S'ils sont plus dans le maraîcher, quel type de terre. Et puis en fonction du type de terre, savoir dans quelle zone au Québec est-ce que les terres sont plus propices justement à la culture qu'ils veulent faire.
Donc c'est à eux de faire le travail en amont, de voir si leur exploitation sera viable sur le long terme.
Exactement, c'est ça. On s'attend d'eux, justement, étant donné qu'ils ont suivi des cours et tout, qu'ils soient quand même en mesure aussi de s'auto, de planifier leur projet, de mettre ça sur papier. Et puis nous, on est là comme en plus, en fait, à apporter une expertise un peu plus poussée.
Ah ouais, bah c'est intéressant. En tout cas, moi qui fais agriculture, les études en agriculture, bah, c'est bien de savoir tout ça. Et puis, ça démontre aussi du sérieux, finalement, dont vous parliez, le fait d'avoir un plan assez...
Effectivement, c'est ça. Donc, nous, on est ouverts. Et puis, si vous connaissez des personnes qui veulent se lancer en agriculture, n'hésitez pas à nous les référer ou qu'ils puissent juste aller sur notre site qui est arter.ca pour avoir plus d'informations là-dessus.
D'accord.
Ben, merci beaucoup, Michel-Ange Imbois. Donc, je rappelle, vous travaillez à Arter, qui est donc un organisme d'accompagnement et de promotion de l'agriculture. Merci beaucoup
d'avoir
été là aujourd'hui. Myriam, c'est déjà 8h59 ici sur les ondes de 694.3. C'est déjà la fin de l'allongé.
Pas, franchement.
Le dernier allongé pour toi de cette saison.
Ah oui.
Je sais pas si les auditeurs pourront te retrouver ici l'année prochaine.
Je ne pense pas, mais en tout cas, ça a été un plaisir en tout cas d'être là, d'avoir partagé toutes ces sessions avec toi aussi. Mm-hmm. J'ai bien aimé toute la période de passage ici. Enfin, c'était bien.
Oui, mais merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir aussi de présenter l'allongé avec toi. C'est lundi matin. Sinon, pour ma part, on se retrouve pour l'allongé jeudi et puis vendredi. Et puis,